France Inter. Une heure en série.
Et justement, les années qui passent, c'est un peu le sujet de notre effet miroir, cher Benoît, ce soir, puisque vous revenez sur une série culte qui a été rééditée en DVD. Ça existe encore, les DVD?
Eh oui.
C'est ce que vous m'aviez dit une fois.
Ben oui.
C'est sûr qu'un jour, je vous le renverrai. Et qui a beaucoup influencé, non pas le DVD, mais cette série, les autres séries familiales des années 80 jusqu'à nos jours. Vous revenez donc sur...
Le riche et le pauvre.
The rich and the poor, because I am bilingue.
Bravo. Exactement, réédité donc en DVD Blu-ray chez Elephant Film, Le Riche et le Pauvre a été diffusé pour la première fois aux États-Unis il y a tout juste 45 ans, donc entre février et mars 1976. Chez nous, elle arrive dans la foulée en 1977. Alors pour être tout à fait honnête, je n'avais gardé personnellement qu'un lointain souvenir de cette série, quelques images, notamment celle du jeune Nick Nolte en boxeur, tout l'opposé de son frère, le gendre a priori idéal. Mais dans l'histoire de la télé américaine, cette mini-série d'une douzaine d'heures est souvent évoquée comme un tournant et comme une série qui a su cristalliser, dans le genre du mélodrame familial, les grandes mutations de l'immédiate après-guerre jusqu'aux années 70.
Alors, même si le titre a le mérite quand même d'être assez explicite sur le contenu de la série, je vais vous demander quand même de nous raconter un peu ce que raconte le riche et le pauvre, même si... On a une petite idée.
C'est l'histoire de la famille Jordache et plus particulièrement de deux frères, Tom et Rudy, à la sortie de la guerre. Deux frères qui n'ont en commun que leurs origines modestes, fils d'un boulanger d'origine allemande qui, après la première guerre, a migré aux États-Unis. Ce père, interprété avec beaucoup de justesse par le regretté Ed Asner, est très dur avec sa femme et ses deux fils. Cet homme marqué par les atrocités de la guerre a du mal non seulement à voir un de ses fils devenir une racaille, mais aussi de voir l'avenir de son petit commerce menacé d'extinction. La série suit en fait l'un, Rudy, Peter Strauss, qui est un étudiant brillant, à l'avenir prometteur, et donc l'autre, Tom, Nick Nolte, bagarreur, qui a la fureur de vivre, et qui doit, après une énième bêtise, fuir sa petite ville, et ne cesse de se mettre dans des situations compliquées. Mais la série plus chorale ne suit pas que le destin des deux frères, du riche et du pauvre, puisqu'il est question aussi de Julie, la petite amie de Rudy, aide-soignante, qui s'occupe de ceux brisés par la guerre, mais qui rêve de Broadway, d'une vie fougueuse, et que son petit ami Rudy, bien trop sage pour elle, n'ose d'effleurer. Il y a donc toute la romance familiale, le mélodrame, mais abordé avec les moyens et le luxe de la mini-série des 70s. En réalité, le succès de la mini-série Le Riche et le Pauvre poussera NBC à commander une deuxième saison de 22 épisodes. En France, elle sera intitulée Les Héritiers. Et cette saison 2 se concentrera uniquement sur le destin de Rudy dans le monde des affaires.
Bon, mais on est censé quand même parler d'effet miroir. Alors justement, quel effet miroir dans cette série?
Eh bien, il y a dans Le Riche et le Pauvre un portrait du rêve américain et des désillusions, en fait. La série dépeint avec justesse l'Amérique des 30 glorieuses et notamment celle de la fin des petits commerces au détriment des grands complexes commerciaux et porte un regard sur la classe ouvrière ainsi que sur l'émergence des banlieues pavillonnaires. Par ailleurs, la trajectoire de Rudy va l'entraîner d'une entreprise florissante à une carrière en politique qui permet de raconter les dessous d'une Amérique dessinée selon les bons vouloirs du pouvoir économique et de sa consanguinité avec le monde politique. La preuve par cet extrait où Rudy bataille contre un certain Estep, patron de la société Tricorp, société plus que frauduleuse, l'occasion de montrer qu'après avoir été un chef d'entreprise soucieux de ses salariés, Rudy peut être un sénateur intègre. L'histoire se situe à la fin des années 70, mais la série passe en 1977, non loin de la chute d'un certain Nixon. Ceci explique peut-être cela.
C'est la chance de votre vie, mon cher Rudy. Une enquête sénatoriale bien conduite peut mener au sommet de la politique, comme l'affaire Alger Hiss pour M. Nixon.
Je n'ambitionne pas de suivre les traces de M. Nixon. Je me contenterai de faire goûter à Estep le menu de la prison. Ben, avez-vous pris une décision à propos de l'honorable sénateur de l'Oklahoma?
Dillon est de très longue date membre de la commission.
Oui, mais qui touche 100 000 dollars par an en qualité de conseil juridique d'une société dépendant d'Estep.
Aucune loi ni aucune règle n'interdit à un sénateur ou à un élu local de travailler pour le compte d'une société privée, que je sache.
Oh, allons, je vous en prie, Ben. Vous parlez comme l'attaché de presse du cabinet Dillon. Cet élu national va devoir siéger dans une commission sénatoriale d'enquête dirigée contre son employeur. Vous ne croyez pas que c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts?
Si vous avez des preuves, il est sûr que Dillon adoptera une attitude de prudence.
Et s'il veut prendre des initiatives, je dirai ce que j'en pense en public.
Bref, quand vous aurez fait le tour de Succession, jetez un œil sur Le Riche et le Pauvre. La série est dispo en DVD chez Elephant Film.
Merci beaucoup, cher Benoît, pour cet excellent effet miroir mémoriel et un peu nostalgique. Un effet miroir que l'on peut bien sûr réécouter en podcast.